Il est 6h.
Ah oui, ça nous manque ce genre de musique. Quand est-ce qu'on va pouvoir se déhancher dans les boîtes de nuit? Elles sont fermées depuis près d'un an et demi. Une réouverture pour l'été semble enfin se dessiner. Dans ce journal, Jean Castex, à nouveau cas contact, à l'isolement pendant 7 jours. L'audition très attendue aujourd'hui de Jean-François Copé au procès Big Malion. Et puis 60 ans de carrière exposée à Marseille. Les Rolling Stones posent leurs valises au Vélodrome à partir d'aujourd'hui. C'est l'exposition Unzipped. On vous y emmène à la fin de ce journal.
Et justement, après ce journal et après le journal des sports de Léna Hecmonnier, mon invité inattendu. Il est l'homme derrière le logo iconique des Rolling Stones, cette bouche avec la langue tirée. Qui est-il? Rendez-vous dans 20 minutes, à tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça y est, nous avons les restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les casinos. Une question maintenant, à quand la réouverture des discothèques? C'est le seul secteur qui est resté totalement à l'arrêt depuis le tout premier confinement, soit depuis 15 mois. Pour l'instant, pas d'annonce concrète de la part du gouvernement. La date du 2 juillet est évoquée. Emmanuel Macron devrait trancher le 21 juin. Autant dire que cela laisserait peu de temps aux établissements pour se préparer, Carole Ferry.
Selon les professionnels du secteur, les pistes pour le moment, c'est une jauge à 65%, des tests antigéniques à l'entrée, les consommations assis, uniquement assis maximum. Mais rien n'est encore tranché et ça ne facilite pas le recrutement du personnel qui fait déjà défaut, selon Christian Jounit du Syndicat national des discothèques.
Nous ne pouvons pas dimensionner correctement notre recrutement. Moi, ce matin, j'ai commencé l'exercice et j'ai malheureusement constaté que sur une vingtaine d'appels, j'avais déjà 18 personnes qui s'étaient orientées dans d'autres secteurs d'activité. Et je peux le comprendre, ils n'avaient pas non plus l'obligation d'attendre qu'on puisse leur donner un feu vert. Et c'est vrai que nous sommes tous dans la difficulté.
Alors si vous cherchez un job d'été, eh bien c'est le moment de préparer vos CV. Il y a besoin de serveurs, d'hôtesses d'accueil, d'agents de sécurité et puis de chauffeurs de bus, là où des transports ont été mis en place pour amener les fêtards chez eux.
Carole Ferry.
Les restaurants ouverts, les piscines, autant de petits plaisirs que Jean Castex ne pourra pas goûter, en tout cas pas tout de suite. Le Premier ministre est encore une fois cas contact.
Hier à la même heure, il était à Rungis auprès des professionnels pour lancer la nouvelle étape du déconfinement. Mais aujourd'hui, retour à la case isolement. Cette fois, c'est son épouse qui est positive au Covid. Alors jusqu'à présent, Jean Castex n'a jamais contracté le virus, mais Aurélie Arbemont, il commence à être un habitué du cas contact.
Et oui, c'est la troisième fois que le Premier ministre est cas contact, d'abord du directeur du Tour de France en septembre, puis du chef de l'État en décembre, et donc aujourd'hui de son épouse. Hier soir, il a été testé négatif, mais le voilà à nouveau contraint à l'isolement. Pour 7 jours, après avoir passé la journée d'hier sur le terrain pour marquer la nouvelle étape du déconfinement, il a même bu un café au comptoir à Rungis. Il en sera privé pour une semaine. Hasard du calendrier, Jean Castex aurait dû recevoir sa deuxième dose d'AstraZeneca en fin de semaine. Son rendez-vous sera reprogrammé la semaine prochaine. Isolement oblige et s'il est négatif, bien sûr, condition sine qua non pour ressortir. Son prochain déplacement de soutien à un candidat au régional prévu mercredi est donc en attente de confirmation. Et d'ici là, toutes ces réunions se feront évidemment en visio.
Dans l'actualité également, c'est le féminicide qui avait déclenché le Grenelle des violences faites aux femmes en 2019. Julie Dwib, tuée par balle par son ex-compagnon en Corse. Le procès du tueur s'ouvre aujourd'hui aux assises de la Haute-Corse à Bastia. Il encourt la peine de prison à perpétuité. Vous entendrez le témoignage de la mère de la victime dans le journal de 7h.
Quant au procès de l'affaire Big Malion et du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, il se poursuit aujourd'hui. Et à la barre, cet après-midi, Jean-François Copé.
Et son témoignage est très attendu. L'ancien patron de l'UMP est venu dire à quel point il ne savait rien en se présentant comme le bouc émissaire de cette affaire. Chloé Triomphe.
Je ne me suis occupé ni de près ni de loin de l'organisation de la campagne. En un mot, commençant, Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP en 2012, pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, douche toutes les questions du tribunal, au point que le procureur ironise au détour d'une phrase. Dans ce procès, nous sommes là pour comprendre comment tout cela a été possible. Je ne sais pas si nous y arriverons. En tout cas, ce n'est pas le témoin Copé qui aura répondu à la question centrale, celle de savoir qui a décidé de la mise en place de la fraude pour masquer le dépassement des plafonds de la campagne. campagne. Car Jean-François Copé avait hier une toute autre vérité à délivrer. Son témoignage d'homme politique blessé. « C'est le souvenir le plus douloureux de ma vie professionnelle », explique-t-il, en racontant la haine dans les yeux de ses meilleurs ennemis à droite, alors qu'il incarnait la relève dont certains ne voulaient pas. « Ben voyons, j'étais le parfait bouc émissaire », conclut Jean-François Copé, qui lance une énième fléchette. « Qu'est-ce que mon nom est prononcé dans cette affaire alors que je suis témoin, tandis que d'autres ne le sont jamais ?» Allusion à peine voilée en direction de Nicolas Sarkozy, qui sera interrogé la semaine prochaine.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
6h08, la suite du journal Sophie Echen.
60 ans de carrière, 1500 concerts, 240 millions d'albums écoulés. Et rien que ça, et ça, ce sont les Rolling Stones. L'exposition Unzipped qui leur est consacrée débarque à Marseille à partir d'aujourd'hui. Des centaines d'objets rares du groupe de rock mythique, des instruments, des tenues, mais aussi des reconstitutions de leur studio et même de leur tout premier appartement. Visite en avant-première et en musique avec Stéphane Frangy.
Les cigarettes débordent du cendrier, les bouteilles de bière, les disques de blues traînent partout. Pour Martin d'Argentlieu, l'organisateur de cette exposition, c'est ici que sont nés les Rolling Stones.
Ils jouent des heures entières et ils écoutent des disques. Alors ils les passent exprès à vitesse beaucoup moins rapide pour écouter comment ils font les accords de guitare. C'est vraiment le lieu où les Rolling Stones s'accordent et ça y est, ils se trouvent. Voilà.
Ici, on cherche l'immersion, les studios atlantiques, les instruments originaux et puis surtout les fameuses tenues de scène outrancières qui ont marqué le parrain de cette exposition, Philippe Manœuvre.
À Hyde Park, devant 500 000 de personnes, ce concert, je l'ai écouté à Europe 1, mais ça m'a un envoyé spécial. Le groupe arrive, Mick Jagger est en robe. Il a le culot, quoi. Il fait un truc que personne n'a jamais osé. C'est ça qu'on aimait avec les Stones.
Et autre pièce rarissime, les carnets de travail, véritable mine d'informations pour le journaliste musical Olivier Cachin.
Moi, j'ai adoré lire dans le petit carnet de Keith Richards. Aujourd'hui, on a gagné 70 livres. Pas mal comme journée. Même les Stones ont commencé petit.
Et l'exposition qui se conclut sur le dernier coup des Stones, leur concert historique à La Havane. 5 écrans, 5 prises de vue différentes, comme si vous y étiez. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Unzipped Expo, événement qui démarre donc aujourd'hui au Stade Vélodrome de Marseille, qui va durer tout l'été jusqu'au 5 septembre. C'est la réédition d'une expo britannique qui avait été exposée déjà à Londres en 2013. Ça donne très envie. Et justement, qui est derrière le fameux Lipson Tongue? Qui a créé le logo devenu iconique des Rolling Stones? Mon invité inattendu lève le suspense. Il est avec nous dans une petite dizaine de minutes maintenant. Il avait été débauché, figurez-vous, par les Rolling Stones dans les années 70. Ne manquez pas cette interview. À tout à l'heure, merci. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h10.